Le nombril de Vénus, Juliana sur Canal B.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour Sandrine.
Eh bien bonjour Juliana, quel plaisir de te revoir, ça fait hyper longtemps qu'on ne s'est pas vu.
C'est vrai. Alors avant de démarrer cette émission qui va nous amener dans l'année 1987, je tiens quand même à vous dire que nous avions, avec Sandrine, envisagé de vous faire l'année 1990. Or, on n'a pas encore diffusé la 1990, mais ça va venir. Et pour parler des années 80, et notamment cette année 87, eh bien, vous allez entendre tout à l'heure des morceaux de Marc Seberg et de Dominique Sonic, qui étaient à la Salle de la Cité en 87 pour les transmusicales. Mais je tenais quand même à ouvrir et à terminer cette émission avec Franck Darcel. Alors, si tu en es d'accord, on va écouter le morceau jusqu'au bout. Il est en train de passer derrière nous.
Absolument.
Super.
C'est une nouvelle saison qui vient d'être inventée. Vive la pluie, vive la déraison. Ma vie glisse sur le monde, s'arrête sur ce pont. Entre deux mers et n'ira pas plus loin. Parallèle et méridien n'indiquent plus qu'un seul chemin. Y aura-t-il quelqu'un qui m'aimera à ce point? Quelqu'un comme moi, quelqu'un comme moi sûrement respire ailleurs, à cet endroit. Quelqu'un comme moi certainement meilleur. Quelqu'un comme moi, quelqu'un comme moi sûrement respire ailleurs. Certainement meilleur. Quelqu'un comme moi, quelqu'un comme moi sûrement respire ailleurs, à cet endroit. Quelqu'un comme moi certainement.
Eh bien voilà, Franck, où que tu sois, nous pensons bien fort à toi. Pour cette nouvelle émission Le Nombril de Vénus sur l'année 1987, si vous ne savez pas encore, on va vous apprendre qu'avec Sandrine et parfois aussi avec Blaise, nous faisons une sorte de remontée dans le temps pour les 40 ans de Canal B en parlant des livres qui sont sortis, livres OBD, hein, parce qu'aujourd'hui pour moi, Sandrine, c'est une BD.
Ouais, très bien. Ouais. Très très bien.
Est-ce que tu veux bien que je rentre carrément dans le vif du sujet?
Bien sûr, rentre.
Allez. Oui, voilà, je suis allée piocher dans la bibliothèque de la maison. J'ai un mari qui adore la BD. Et donc, je lui ai dit, tiens, j'ai trouvé une belle, très belle BD de Baudouin. Donc, ça s'appelle Le Premier Voyage avec un prologue de Philippe Chartron. Paru aux éditions Futuropolis, donc en 1987, et je lui ai dit, je crois que je vais parler de cette BD, et qu'est-ce que j'ai bien fait ? Je vous explique tout de suite pourquoi, parce que déjà d'une part, j'ai découvert Baudouin, que je ne connaissais pas, et j'ai trouvé vraiment cette BD très expérimentale, on va dire, absolument saisissante. Ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Et donc, en piochant comme ça dans la bibliothèque de la maison, tu vois, c'est une très belle découverte. Ça me donne même très envie de découvrir tout l'univers de Baudouin qui a aujourd'hui plus de 80 ans, qui a démarré sa carrière, il avait une quarantaine d'années, il a commencé à publier. Et que bah, depuis petit, je pense, adolescent, il a commencé à dessiner. Il y avait des inspirations avec de la peinture, avec de la sculpture. Et notamment, j'ai trouvé sur Wikipédia, pour ne pas le citer, eh bien, son inspiration dans l'univers de Giacometti. Mmh. Une inspiration avec des détails, des formes, un coup de pinceau parfois saccadé, c'est marqué dans Wikipédia, avec des dessins au noir et blanc. Donc, c'est vraisemblablement une inspiration qui vient de Giacometti, mais qui est complètement donc, l'univers de Baudouin. Et dans cette BD, Le Premier Voyage, alors il y a une chose assez incroyable. Quand j'ai commencé à lire la BD, déjà d'un point de vue de dessin, j'étais vraiment très impressionnée par la grande liberté qu'il a parfois de remplir des cases, vraiment de plein de détails et à d'autres moments pas du tout. Son personnage Mathieu est un homme absolument pas ordinaire et d'ailleurs cette BD expérimentale fait que sur plusieurs pages, on est dans une journée de déambulation de Mathieu sur la ville de Nice.
D'accord.
Et il y a sa tête complètement explosée dans plein de cases avec plein de ses pensées, plein de dessins qui peuvent renvoyer à ses pensées. Cette déambulation, elle démarre le matin. En fait, cet homme, il part de chez lui pour aller travailler. Or, il ne va pas du tout au travail. Et il passe toute sa journée à se balader dans la rue. Il lui arrive plein de choses. Et on est vraiment complètement immergé dans ce qu'elle est en train de penser à l'instant et avec les sensations, parfois des sensations qui relèvent vraiment de son intimité physique, de ses sentiments de moment. Et parfois, c'est complètement flou. Et parfois, ça tombe bien. On commence à saisir quand même ce qui est en train de se tramer dans cette journée et dans la vie de cet homme qui, par ailleurs, avait une vie, somme toute, assez ordinaire, marié, bonne situation, père de famille, mais une vie qui semblerait commencer à lui sembler parfaitement monotone, voire dépourvue de sens par certains côtés. Et il a commencé à avoir une certaine acuité de perception très forte qui passe notamment aussi par ces sensations qui sont décrites. Et ce flou immense, on va découvrir un personnage qui ne cesse de chercher à aller dans son intimité pour toucher le plus grand silence. Philippe Chartron, lui, il y fait un travail absolument remarquable d'accompagnement. Alors, c'est un prologue, moi je veux bien, mais en fait, c'est un texte qui est toujours présent au pied de page sur la plus de quarantaine de pages de la BD. Donc, son texte accompagne toute la BD. Cet homme, donc, qui est un auteur, un poète, qui a fait plein de choses quand on cherche, c'est un sociologue. Tous les deux viennent de la ville de Nice. Donc, j'imagine très amis, peut-être, parce qu'ils ont plusieurs collaborations, en fait, j'ai découvert. Et comment dirais-je, le texte est poétique, il accompagne très bien, alors que nous sommes en train de vivre cette déambulation de ce personnage dans une journée dans la ville de Nice, qu'on découvre petit à petit, et ses pensées, parfois très désordonnées, ses rencontres qui sont improbables, son état d'esprit qui est complètement chaotique par moments. Avec ce dessin qui est vraiment envoûtant, ce noir et blanc avec parfois des traits qui sont très très marqués et cette liberté immense que je disais tout à l'heure dans la narration. Moi j'ai beaucoup aimé aussi le texte parce que lui il est complètement déconnecté et pas tant que ça en fait. C'est très rigolo de lire les deux en même temps. Alors j'ai fait les deux en même temps. Je lisais sur internet, il y a des gens qui ont lu d'abord le prologue, on va dire, enfin la narration complète de pied de page de Philippe, et qu'après ont lu vraiment les cases, la production donc de Baudouin. Moi, j'ai fait les deux en même temps, alors que cette journée, on est avec un Mathieu qui est un adulte, qui se promène, qui est un père de famille, qui est un salarié, qui est quelqu'un, un adulte, quoi. À côté de ça, il y a Philippe qui démarre vraiment en parlant de l'enfance de personnages et des moments sublimes qu'il a vécu avec déjà cette perception en lui en étant enfant lorsqu'il passait du temps dans la maison de sa grand-mère. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé cette BD parue encore une fois en 1987 chez Futuropolis. Et je ne sais pas si j'ai vraiment envie de vous lire. Bon, si, je vais lire juste la toute première page. C'est le texte qui on va trouver en pied de page écrit par Philippe. Mais alors, voilà, je ne voulais pas lire parce que c'est le texte, la narration de Philippe et non pas celle de Baudouin.
Oui.
Mais quand même, c'est là où on va trouver un texte pour lire. Donc, je vais le faire maintenant, si vous voulez bien.
Avec plaisir.
De la maison de la grand-mère de Mathieu, là où tout a commencé, où Mathieu, en quelque sorte, est né, on a toujours vu la mer, entre deux vallons, entre deux collines. La mer était à portée du regard. Mathieu sortait de la maison le matin et il commençait sa contemplation tout de suite. On lui disait d'aller jouer, d'aller plus loin, mais pas du côté de la citerne tout de même. Mais il ne courait pas. Il regardait là-bas le morceau de mer entre les crêtes et l'horizon au-dessus des caps. Mathieu bougeait peu, il s'asseyait sur la tonnelle. De temps en temps, grand-mère lui proposait de boire ou lui préparait son petit casse-croûte. Le temps se dilatait et brisait la limite des heures, des jours, des mois et aussi des années. La mémoire de ce temps ne fut pas les fêtes de village, l'accident de moto de l'oncle Henri, l'orage de grêle qui détruisit la treille et autres événements remarquables qui rythmaient les années. La mémoire, ce fut la mer, au loin, derrière les vallées, que Mathieu regardait avec grand-mère à son côté. Voilà.
Très bien.
Voilà, on
a envie d'en savoir bien plus. Alors évidemment, je rebondis parce que tu parles de la mer. Et tu sais que le livre dont je vais parler maintenant parle aussi de mer, M-E-R, comme dans ta bande dessinée que j'ai très envie de lire. Je vais vous présenter après la musique que nous allons passer, Marguerite Duras, qui a écrit Émilie L. Nous allons aussi plonger dans la mer.
Génialissime, ça c'est le teasing. Juste avant cela, je vais passer donc un morceau de Marc Seberg,
oui.
Parce que tout comme Dominique Sonic, que nous allons entendre tout à l'heure, tous les deux, ils étaient dans la programmation des Transmusicales de 1987.
Oui,
elle est pas belle la vie?
L'hiver dure trop longtemps. C'est vrai, sans toi la neige, le gel, les coups de vent. En plein cœur d'avril s'éternisent, les mois s'étirent, se ralentissent, jusqu'au plus profond de l'ennui. L'ennui, c'est que tous les chats sont pris. Sans toi, les couleurs se fanent en une fine pellicule de poussière un peu sale. Comment retrouver le temps d'une danse, tous les clichés d'une romance, et comment oser faire rimer l'amour avec dernier recours. Et si ce ce n'est pas pour demain, qu'importe, j'attendrai le jour d'après. Et si ce n'est pas pour demain, alors j'attendrai le jour d'après. Un millier d'années, un éclat de verre, milliers de larmes, une éclaircie. Pas pour demain, alors j'attends.
N'arrêtez pas de dandiner ici dans le studio de Canal B, évidemment.
Mais oui, avec grand plaisir. Évidemment, 1987, tu sais, vous savez tous et toutes, comme j'aime Marguerite Duras depuis, je ne compte plus les années, en tout cas, oui, ce n'est pas la peine, ça ne sert à rien, si ce n'est de lui dire que je l'aime. 1987, eh bien voilà, ça m'a rappelé Émilie L. Émilie L, qui peut faire écho aussi au ravissement de Löwenstein, un nom, un prénom qui en dit beaucoup avec ses initiales. Alors je vais vous présenter ce livre-là aux éditions de Minuit, bien évidemment, avec ce titre, avec cette photographie qui présente l'hôtel de la Marine. Je pense que c'est véritablement celui qui a inspiré Marguerite Duras. Alors... voilà, on va y trouver quelque chose qui la définit. Évidemment, on appelle ça cette rythmique si particulière qui fait que si, évidemment, on a une présentation par écrit d'un texte, on peut en tout cas, dès lors qu'on a déjà évidemment lu un de ces textes, découvrir, retrouver en tout cas son identité, bien évidemment. Alors, ce que j'aime, c'est la puissance des mots, la puissance des personnages, de ces histoires. Plus précisément de ces histoires d'amour. Tu sais aussi que j'aime.
J'ai fait des petits cœurs.
Je ne vais pas dire j'aime l'amour, mais j'aime l'amour malgré tout, j'assume clairement. Évidemment, ce livre est une histoire d'amour et je vais vous en dire un petit peu plus tout à l'heure. Alors, sachez juste qu'évidemment, cet ouvrage est publié en 1987. À cet âge-là, Marguerite Duras avait 73 ans. Elle est décédée quelques années plus tard, en 1996. Elle vivait déjà cette grande histoire d'amour tumultueuse, tempétueuse et autre avec le fameux Jan Andrea. Jan Andrea Stenner, si je puis dire, qui est aussi le titre d'un ouvrage. Alors... voilà, on peut dire que cet ouvrage fait partie du cycle Atlantique. Tu sais qu'il y a des ouvrages de Marguerite Duras qui sont classés comme celui-ci. Il en fait partie avec L'Amant. L'Amant, voilà. J'ai cette image tout de suite du film qui apparaît, mais aussi de l'écriture, bien évidemment, qui est publiée en 1984, qui a comme été prix Goncourt. Et notamment, voilà, on retrouve Jan Andrea Stenner en 1992. Alors, de quoi s'agit-il ? D'une grande histoire, d'une histoire d'amour. C'est un ouvrage que je considère quand même complexe, évidemment, pas autant que le ravissement de Löwenstein, mais complexe malgré tout. Vous avez deux couples, un couple dont la narratrice, dont on ne connaît ni le prénom, arrive avec son compagnon, c'est peut-être évidemment Marguerite et Jan Andrea, peut-être pas, autofiction bien évidemment. Ils arrivent au bord d'une voiture dans cet hôtel de la Marine où ils ont l'habitude de boire des verres, de se poser, de regarder, d'observer... tout en discutant entre eux, ils rencontrent un autre couple anglo-saxon qui s'appelle Captain et la femme Émilie L. C'est elle, la narratrice, le personnage principal dont on va entendre parler, en tout cas on va lire l'histoire tout au long des pages et des plages, j'ai envie de dire. Parce que oui, ce livre-là parle de la mer, il parle de l'amour de la mer, et de la mer amour, et de l'amertume de l'amour, évidemment. Je fais quelques jeux de mots parce que c'est
joliment fait.
C'est tellement beau. Et en plus, il y a une œuvre dans l'œuvre. Émilie, elle, est une autrice, écrivaine, écrit des poèmes qui le faisait avant de rencontrer Captain. Et puis cet homme-là va se rendre compte que il devient jaloux de cette écriture. Et évidemment, C'est une histoire d'amour, mais c'est aussi un livre sur l'écriture. Ça s'apparente un peu à Roland Barthes avec le discours amoureux. Voyez, il y a quelque chose de ça. C'est, vous voyez, les auditeurs, les auditrices, je vous encourage vraiment à lire parce que on est dans quelque chose d'extrêmement complexe. On ouvre des boîtes, on ouvre des boîtes, et à un moment donné, bien sûr, on comprend. Hein, évidemment, c'est toute l'intelligence de Marguerite Duras, mais en tout cas, ça nous fait plonger dans des choses, dans peut-être aussi quelque chose d'onirique. Évidemment, pourquoi l'écriture, quel est le processus créatif, en quoi l'écriture peut être une forme de jalousie par rapport à l'homme qu'on aime, qu'est-ce qui provoque ça, cette colère de cet homme vis-à-vis de cette femme. On en saura évidemment beaucoup plus en lisant ce texte. Alors moi,
son indisponibilité, je dirais, entre autres.
C'est vraiment un ouvrage très très fort, évidemment. Alors je faisais l'analogie avec Le ravissement d'Olvestein. Bien sûr, il faut savoir que depuis l'écriture de Été 80, Marguerite Duras a cherché à travailler son style, bien évidemment. Et dans celui-ci, comme je disais tout à l'heure en introduction, on peut savoir que les phrases sont souvent fragmentées, courtes, très saisissantes. Et puis, évidemment, tout à l'heure, je vais vous lire un passage. Alors, voilà, on est au bord de la mer. On est, tu sais, juste à côté du Havre. Marguerite Duras vivait, avait acheté un appartement bien des années avant, aux Roches Noires, à l'hôtel des Roches Noires, que je connais bien, que j'adore. Et j'y vais, évidemment, pour m'imprégner de cette atmosphère. Et quand on est face aux Roches Noires, en tout cas, on regarde les Roches Noires, pardon, et qu'on regarde le Havre, c'est absolument magnifique. Et c'est là où Marguerite Duras aimait aller en voiture avec Yann Andrea. Ils allaient se promener, boire des verres, parler d'amour, évidemment, dans leur grande histoire. Alors, si tu es d'accord, je vais vous lire quelques pages.
Vas-y.
C'est un petit peu à la fin, malgré tout, mais j'ai trouvé que c'était l'un des passages les plus forts, ce qui n'empêche évidemment pas de lire l'ouvrage, parce que c'est celui qui m'a en tout cas le plus ému. C'était curieux. Nous ne savions plus si c'était la nuit. Au-dessus de la Seine, le ciel s'était de nouveau éclairé comme si le crépuscule avait repris de la force. On a dit que cette année-là, l'été serait resplendissant. Toutes les eaux étaient calmes, celles de la mer et celles du fleuve. Les eaux douces, d'habitude, étaient ralenties dans leur descente vers la mer par ce que j'appelais les grands câbles lisses de la houle qui, d'une rive à l'autre, interdisaient l'accès de la mer. Ce soir, non. À perte de vue, le fleuve coulait dans les eaux de la mer. On aurait dit que les mouvements des eaux étaient portés par le sommeil. Il n'y avait pas de doute. On ne s'était pas trompé. Il faisait encore jour. Cette clarté dans le ciel venait encore du soleil. Ce n'était pas celle de la nuit. La nuit qui venait serait celle d'un début d'été. Encore fraîche vers l'aurore. C'était juin. Je ne me souviens plus si nous avons dîné. Je ne me souviens plus de ce que nous avons fait. Depuis le moment où nous avons quitté le chenal jusqu'à celui où nous avons été nous coucher. Je me souviens d'une certaine tranquillité qui était partout répandue sur la mer et sur nous. Cette nuit-là, vous n'êtes pas sorti pour courir les grands hôtels et les collines. Vous êtes resté là. Je suis allé me coucher. Votre corps et le mien ont été dans le même endroit, enfermés. Votre sommeil venait toujours avant le mien. Vous dormez bien, ce qui me rassurait toujours, parce que la nuit vous emmenait dans l'oubli de cette existence que vous meniez avec moi et que vous souhaitiez abandonner. Et puis je me suis réveillée. Je vous ai appelé. Vous ne m'avez pas répondu. Alors je me suis levée. J'ai été à votre porte et j'ai crié. Vous dormiez peut-être, je ne sais pas, je n'y ai pas pensé. Vous avez fini par dire « Qu'est-ce qu'il y a ?» J'ai dit « Je voulais vous dire que ce n'était pas assez d'écrire bien ou mal, de faire des écrits beaux ou très beaux, que ce n'était plus assez pour que ce soit un livre à lire dans une avidité personnelle et non pas commune, que ce n'était pas assez non plus d'écrire comme ça, de faire accroître que c'était sans pensée aucune, guidée seulement par la main, de même que c'était trop d'écrire avec seulement la pensée en tête qui surveille l'activité de la folie. C'était trop peu la pensée et la morale, et aussi les cas les plus fréquents de l'être humain. Les chiens, par exemple, c'est trop peu, et c'est mal reçu par le corps qui lit et qui veut connaître l'histoire depuis les origines. Et à chaque lecture, ignorer toujours plus avant que ce qu'il ignore déjà. Je vous ai dit aussi qu'il fallait écrire sans correction. Pas forcément vite, à toute allure, non. Mais selon soi, et selon le moment qu'on traverse soi, à ce moment-là, jeter l'écriture. Oui, jeter l'écriture. Alors, au début, en dehors, la maltraiter presque. Oui, la maltraiter, ne rien enlever de sa masse inutile, rien, la laisser entière avec le reste, ne rien assagir, ni vitesse, ni lenteur, laisser tout cela dans l'état de l'apparition.
C'est la fin de l'émission Le Nombril de Vénus sur Canal B.
Et voilà, c'était trop bien, mais c'est fini Sandrine.
Eh oui, c'est fini.
Mais
voilà.
La prochaine, quoi. La prochaine, ça sera. Donc, on a la diffusion de 1990, mais le tirage au sort a fait que nous allons traiter la littérature de quelle année, Sandrine?
Eh bien, si j'ai bien compris, si j'ai bien lu, 2009.
2009.
Mais c'est ça.
Ah bah voilà, donc rendez-vous pour 2009.
Très bien.
Très bientôt, ici sur Canal B. Bisous, bye.
À bientôt.
C'est ton visage trop vite aperçu à la descente d'un train de nuit. C'est ton visage qui m'éveille sans bruit au monde secret de ta rue. Pour te revoir, je ferai n'importe quoi. Et pour savoir ce qu'en ce moment tu vois, pour te revoir je ferai n'importe quoi. Et si un jour j'apprenais enfin qui se cache dans ce souvenir, j'essaierais en serrant les poings tuer le temps de le retenir. Et de la rue monteront des cris qu'on entendra jusqu'au Sacré-Cœur. Alors les cloches à toute volée chasseront les anges en pleurs. Je ferai ferais n'importe quoi. Et pour savoir ce qu'en ce moment tu vois,